Merci Maïlys, et à demain pour un nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho. Tout de suite, c'est la compagnie des auteurs, une émission proposée par Chloé Casmarek, Laurence Millet, Laurence Genepin et Anne-Vanessa Prévost, avec à la console aujourd'hui Anthony Thomasson.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une semaine spéciale qui s'ouvre aujourd'hui pour la compagnie. Pas d'auteur particulièrement au sommaire, mais 4 jours de carte blanche. Des cartes blanches dont vous connaissez à présent le principe, un grand lecteur, universitaire ou écrivain qui sélectionne une série de textes autour d'un thème en particulier. Demain, notre carte blanche sera proposée au critique et universitaire Philippe Roger. Il viendra nous parler de la manière dont les écrivains français représentent les États-Unis dans leurs œuvres depuis plus de 3 siècles. Mercredi, c'est à une autre universitaire, Marielle Massé, que nous laisserons ce micro. Elle a choisi d'évoquer la question de la rage et de la colère en littérature. Enfin jeudi, c'est Jean Pavant qui sera dans ce studio pour parler, lui, de Baudelaire, Proust et de leurs mères respectives. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler architecture et littérature, c'est à vous que revient cette carte blanche. Pierre Hippolyte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences en littérature du XXe siècle à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez fondé avec l'architecte Antoine Légoni l'association Graal, qui organise des colloques transdisciplinaires sur ce sujet, des liens entre architecture et littérature. Est-ce que la question de la forme, la question plastique, c'est une question qui vous intéresse depuis longtemps, Pierre Hippolyte?
Oui, tout à fait. J'ai fait ma thèse sur l'hyperréalisme en littérature. Et donc, par conséquent, je me suis intéressé aux peintres hyperréalistes, photoréalistes, américains et européens. Et les représentations hyperréalistes ont souvent la forme d'un panorama ou tout simplement de vues urbaines. Il y a aussi des tableaux qui représentent des vues rurales, mais les grands peintres hyperréalistes ont souvent pris pour objet l'espace urbain.
L'hyperréalisme étant une technique picturale qui permet finalement de donner l'impression de regarder une photo alors qu'on regarde un tableau.
Exactement. La peinture hyperréaliste utilise la photographie pour rendre compte avec le plus de fidélité possible, le plus d'objectivité, le plus de vérité, la réalité. Et bien évidemment, elle ne se limite pas à cela. Très souvent, les tableaux des peintres hyperréalistes, je pense à ceux de Richard Estes notamment, mais de Malcolm Morley également, recompose à partir d'une série d'images photographiques un paysage, principalement un paysage urbain, en accumulant donc des points de vue différents et en offrant ainsi une représentation de la ville, une représentation de l'espace urbain sous tous les angles de vue possibles. Et donc, par conséquent, le tableau hyperréaliste devient une véritable fiction picturale, une véritable fiction urbaine. Et donc, l'hyperréalisme a ouvert la voie à de nouvelles formes de représentation visuelle de l'espace urbain. C'est la raison pour laquelle je m'y suis intéressé et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on considère à tort que la peinture hyperréaliste n'est pas digne d'intérêt.
Mais parce que vous venez des arts plastiques, qu'est-ce qui fait que finalement vous vous intéressez précisément à l'hyperréalisme qui n'est pas, sauf erreur de ma part, tellement un terme employé pour qualifier la littérature ?
Alors, je me suis surtout intéressé à la littérature de la seconde moitié du XXe siècle, et plus particulièrement aux romans, principalement aux nouveaux romans et aux romans de Georges Perec. Et en travaillant sur les œuvres des nouveaux romanciers, en travaillant sur Claude Simon, en travaillant sur Rob Grier, et en travaillant aussi sur l'œuvre de Perec, je me suis rendu compte que les analogies avec la peinture étaient nombreuses. Mmh. Et que l'analogie avec la peinture hyperréaliste était notamment revendiquée par Perec. Alors, de manière fondée ou infondée, c'est une autre question, mais elle est revendiquée. Et donc, je suis allé voir du côté des peintres hyperréalistes ce qu'il en était. Je me suis intéressé à la peinture hyperréaliste parce que je trouvais que cette représentation minutieuse de la réalité à partir du médium de la photographie était beaucoup plus complexe qu'on le disait et qu'on le pensait. Et j'ai essayé de montrer que le traitement du détail dans la littérature à partir de la seconde moitié du XXe siècle et dans la littérature contemporaine n'était pas sans lien avec la manière dont le détail est traité dans les tableaux hyperréalistes.
D'accord, donc c'est le détail qui fait l'hyperréalisme en littérature, comme Claude Simon, par exemple, va décrire le mouvement d'un cheval avançant au pas. Ça, c'est de l'hyperréalisme en littérature, par exemple.
Oui, alors la question du détail et de l'hyper-représentation est évidemment au cœur de ces rapports entre la littérature et la peinture hyperréaliste. Mais je vous le disais il y a un instant, ce qui est aussi intéressant, c'est que le tableau hyperréaliste propose une fiction picturale. Et donc nous donne à voir autrement la réalité. Et la question de la fiction est évidemment aussi au cœur de la réflexion, surtout lorsque l'on travaille sur des écrivains contemporains.
Alors il y a dans l'actualité des romans qui sont d'ailleurs le fait d'historiens de l'art et qui traitent d'architecture. Je pense à Villa Kérylos d'Adrien Goetz. Goetz qui est historien de l'art et romancier, c'est bien la preuve, peut-être, c'est peut-être la preuve que cet intérêt pour l'architecture, il vient de personnes qui sont à cheval entre les arts plastiques, l'histoire de l'art et l'histoire de la littérature.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et évidemment, les nouveaux romanciers et les écrivains de la seconde génération ou de la troisième génération de Minuit sont aussi des écrivains qui se sont très souvent intéressés à la peinture. Georges Perec a été, évidemment, n'est pas un écrivain appartenant à cette génération, bien sûr, mais Georges Perec, qui vient après la génération des écrivains du nouveau roman, eh bien, lui aussi s'est beaucoup intéressé à la peinture et notamment à la peinture hyperréaliste.
Alors, quand vous regardez un bâtiment, mettons pour l'instant de côté les autres écrivains et parlons un peu de votre vision, Pierre-Hippolyte, quand vous regardez un bâtiment, qu'est-ce que vous vous dites en général ou quand vous regardez une perspective dans une ville?
Alors, c'est vrai que j'ai une perception qui est plus esthétique que fonctionnaliste. Et je regarde l'architecture avec donc un regard plastique. Mmh. Donc ce qui m'intéresse, c'est les volumes, leur assemblage, etc. En même temps, la grande architecture, c'est-à-dire l'architecture qui n'a pas simplement un but fonctionnel, qui ne répond pas simplement au besoin d'habiter un espace de telle ou telle façon et à un cahier des charges extrêmement strict, eh bien, c'est aussi une architecture qui, évidemment, emprunte à la peinture, emprunte à l'écriture, à la littérature, des modèles.
Vous êtes l'auteur, si l'on peut dire, l'organisateur de différents colloques qui reprennent ces deux notions d'architecture et de littérature. Et notamment l'un sur les différents âges de la vie dans la manière dont, à ces différents âges, on regarde et on habite l'architecture. Qu'est-ce que ça signifie d'habiter un bâtiment quand on a 8 ans, quand on a 30 ans, quand on a 80 ans, et au fond, quel est le lien avec la littérature ici?
Alors c'est une question difficile à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. C'est vrai que nous avons organisé à l'Université de Paris-Nanterre 3 colloques sur l'architecture et les âges de la vie. Architecture, littérature et enfance, architecture et littérature de l'adolescence à la maturité, et architecture et littérature du grand âge aux demeures de l'ultime. Ce qui était intéressant, c'était non seulement, bien évidemment, de voir comment la littérature peut rendre compte de cette perception de l'espace architecturé.
Donc la perception, par exemple, par les enfants, qui, j'imagine, n'est pas la même que la perception par l'adulte, par les personnes âgées, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et comment aussi les architectes répondent eux-mêmes à ces attentes. Et donc là, il y avait une réflexion qui s'est organisée autour, justement, de ces interactions entre l'architecture et la littérature, et surtout la manière dont la littérature rend compte de la perception de l'architecture.
Alors, on ne va pas développer tout de suite. Vous allez, j'imagine, développer au fur et à mesure de l'émission vos conclusions sur ce thème. Il faut quand même maintenant remonter un petit peu dans l'histoire et aller voir du côté des textes de référence ce que vous avez apporté. Et l'un d'entre eux est sans doute la Bible pour qui s'intéresse à cette question de l'architecture dans la littérature. C'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et c'est le premier extrait que vous avez choisi, Pierre-Hippolyte. Nous vous écoutons le lire.
L'architecture commença comme toute écriture. Elle fut d'abord alphabet. On plantait une pierre debout et c'était une lettre. Et chaque lettre était un hiéroglyphe. Et sur chaque hiéroglyphe reposait un groupe d'idées comme le chapiteau sur la colonne. Je me permets de faire une coupure et de lire le texte un peu plus loin. Plus tard, on fit des mots. On superposa la pierre à la pierre. On accoupla ces syllabes de granit. Le verbe essaya quelques combinaisons. Le dolmen et le cromlech celte, le tumulus étrusque, le galgal hébreu sont des mots. Quelques-uns, le tumulus surtout, sont des noms propres. Quelquefois, même quand on avait beaucoup de pierres et une vaste plage, on écrivait une phrase. L'immense entassement de Carnac est déjà une formule tout entière. Enfin, on fit des livres. Autre coupure dans le texte. Or, quelle humanité précaire que celle du manuscrit. Qu'un édifice est un livre bien autrement solide, durable et résistant. Pour détruire la parole écrite, il suffit d'une torche et d'un turc. Pour démolir la parole construite, il faut une révolution sociale, une révolution terrestre. Les barbares ont passé sur le Colisée, le déluge peut-être sur les pyramides. Au XVe siècle, tout change. La pensée humaine découvre un moyen de se perpétuer, non seulement plus durable et plus résistant que l'architecture, mais encore plus simple et plus facile. L'architecture est détrônée. Aux lettres de Pierre d'Orphée vont succéder les lettres de plomb de Gutenberg. Le livre va tuer l'édifice.
Alors Pierre-Hippolyte, on comprend la thèse ici de Victor Hugo. Est-ce que vous pourriez la reformuler, la resynthétiser?
Oui, alors c'est évidemment un très beau texte qui établit d'emblée un parallélisme entre l'écriture des mots et l'écriture des pierres, la grammaire de la langue et celle de l'architecture. Alors Victor Hugo ne fait pas ce parallélisme, ce n'est pas lui qui, pour la première fois, fait ce parallèle, mais il l'exploite, bien évidemment.
Et on sait alors qui fait ce parallèle avant lui?
Alors on retrouve déjà, évidemment, ce parallèle dans les traités des architectes du XVIIIe siècle et de l'Antiquité, où on voit très souvent ce parallélisme qui est fait entre les motifs architecturaux et la grammaire de la langue.
Donc ça n'est pas son idée, c'est la documentation que Victor Hugo a pioché cette idée et qu'il va
oui,
faire sienne.
Oui, tout à fait. Simplement, ce qui est intéressant, c'est cette thèse qu'il affirme d'abord que l'architecture comme étant l'écriture de l'humanité. Et puis, la thèse finale qu'il énonce, l'architecture va se trouver supplantée par le livre, autrement dit, le développement de l'imprimerie, les lettres de plomb. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette inversion des savoirs savants qui est liée au développement des techniques de fabrication du livre, qui va contribuer à l'extrême valorisation, tout à fait légitime par ailleurs, du rôle de l'imprimeur au XXe siècle, notamment dans la première moitié du XXe siècle. Alors évidemment, cette inversion des rapports entre les savoirs n'est pas sans conséquence sur notre système des beaux-arts et donc la hiérarchie qu'il y a entre les arts.
Alors, c'est la première fois finalement un écrivain s'approche autant de la théorie architecturale avec ce texte de Victor Hugo.
Alors, de manière aussi dissertative, à travers une longue digression qui interrompt le fil de l'histoire, de la narration de l'histoire, c'est sans doute une des premières fois. C'est d'ailleurs ce qui a été reproché à Victor Hugo.
Pourquoi ?
Le fait de faire de longues digressions. Oui. En réalité, cette thèse n'a pas été véritablement critiquée, pour une raison simple. C'est que le chapitre « Ceci tuera cela » fait partie des trois chapitres que Victor Hugo dit avoir égarés lors de la conception finale de son ouvrage et sa première publication, 1831. Ce qui lui permet de publier une seconde fois Notre-Dame de Paris et en 1832 et d'y intégrer donc ces longues digressions sur les rapports entre l'architecture et le livre. Par ailleurs, Victor Hugo a plutôt été attaqué sur l'idée que la presse tuera l'Église. Mmh. Et sur le fait qu'il prenait le motif de la cathédrale comme un motif architectural et pas comme un motif religieux.
Parce que finalement, ce sont les cathédrales et les églises qui disent le plus de la société parmi tous les bâtiments. C'est parce que sur leur fronton, finalement, il y a des statues qui racontent un certain nombre d'histoires.
Bien sûr, absolument. Ce qui est évidemment extrêmement intéressant, parce qu'on retrouvera cette idée chez Proust, c'est qu'il y a dans la cathédrale, et dans la cathédrale gothique en particulier, un bâtiment dont tous les éléments ont une signification et dont tous les éléments se tiennent.
Alors, ce qui est quand même étonnant à la lecture de Notre-Dame de Paris, c'est de se dire que, en effet, à l'époque, on se trouvait face à un texte très théorique et quasiment un morceau d'essai à l'intérieur d'un livre qui est censé être un livre narratif. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont les lecteurs de l'époque ont pris cet essai architectural au sein d'un livre qui semblait avoir un but différent?
Alors certainement avec beaucoup de surprises, parce que bien évidemment, Victor Hugo ne suit pas le modèle du roman historique à la manière de Walter Scott. Et donc c'est cette façon qu'il a de déroger à ce modèle, notamment par ses longues digressions, qui a dû surprendre le lecteur. Mais à ma connaissance, et j'ai interrogé une spécialiste de la littérature hugolienne, il n'y a pas d'article de presse qui attaque directement Victor Hugo sur ce point.
Oui. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la description que Hugo fait de la cathédrale de Paris a ensuite influencé les restaurations postérieures de la cathédrale, et notamment, je crois que Viollet-le-Duc reprend des formulations qui sont des formulations de Victor Hugo. Donc c'est un écrivain qui change la ville, là, vraiment.
Absolument, c'est aussi... Alors Victor Hugo était un grand amateur d'architecture. Il a été aussi un grand défenseur du patrimoine. Du patrimoine gothique notamment, mais pas seulement, de tous les monuments historiques. Il a d'ailleurs siégé à partir de 1835 au Comité des monuments historiques. Il y a exercé une action bien réelle en faveur de la préservation du patrimoine. Le fait que ses écrits ont eu ensuite cette postérité-là, celle que vous évoquez, est évidemment aussi tout à fait significatif de l'importance, de l'intérêt, de l'engagement de Victor Hugo pour l'architecture.
Et puis le livre Notre-Dame de Paris, c'est aussi un livre qui est une cathédrale.
Et le livre qui a été effectivement dans ses éditions de poche, présenté comme le format d'un livre cathédrale.
Une cathédrale de poche.
Une cathédrale de poche.
Ce qui s'est mis à m'intéresser vraiment dans l'œuvre de Proust, c'est son caractère architectural. Et ce caractère architectural, il ne se dégage que très lentement. Proust admirait beaucoup Monet, et il y a une série de toiles de Monet qui l'a particulièrement inspiré. C'est la série de toiles sur la cathédrale de Rouen. Cette image de la cathédrale ou de l'édifice qui apparaît peu à peu à travers un brouillard, cette image, on va la retrouver très souvent dans À la recherche du temps perdu. Et à la fin, naturellement, Proust comparera sa propre œuvre à une cathédrale d'une part, et aussi, comme vous le savez, à une robe. Eh bien, évidemment, cette cathédrale qu'est l'œuvre de Proust est une cathédrale qui apparaît peu à peu dans la brume.
La compagnie des auteurs sur France Culture, c'est donc une cathédrale qu'À la recherche du temps perdu nous explique ici Michel Buteur dans cette archive, mais cette cathédrale, elle est dans la brume, Pierre-Hippolyte.
Alors, c'est l'expression que vous venez d'utiliser est tout à fait intéressante et assez significative. Je dirais que Proust, d'une certaine façon, y répond un peu lui-même en regrettant dans sa correspondance le fait que, justement, on ne considère pas suffisamment le motif de la cathédrale comme un motif structurant de son œuvre.
Et pourquoi est-ce qu'on ne le considère pas ?
parce qu'on considère son œuvre comme un recueil de souvenirs fortuits, en partie en raison, bien évidemment, du contenu de l'œuvre elle-même. Mais en même temps, sans doute, parce que Proust a méticuleusement gommé tous les liens entre les différents éléments qui contribuent à la construction de cette somme romanesque.
Parce que dès le départ, la recherche est réellement pensée comme une cathédrale.
En tout cas, Proust dit dans sa correspondance en 1919, et notamment dans sa correspondance avec le peintre Jean de Gaigneron, que le principe organisateur de la recherche du temps perdu, c'est précisément le motif de la cathédrale. Je peux me permettre de citer un extrait de cette lettre qui est célèbre. « Quand vous me parlez de cathédrale, je ne peux pas ne pas être ému d'une intuition qui vous permet de deviner ce que je n'ai jamais dit à personne et que j'écris ici pour la première fois. C'est que j'ai voulu donner à chaque partie de mon livre le titre « Porche 1, vitraux de l'abside », etc. Pour répondre à l'avance à la critique stupide qu'on me fait du manque de construction dans des livres où je vous montrerai que le seul mérite est dans la solidité de ses moindres parties. » Alors, Proust affirme clairement, et il le fait à plusieurs reprises, avoir pris la cathédrale comme principe organisateur de la recherche du temps perdu.
Alors, donc, qu'est-ce que ça donne exactement? Où est la nef? Où est le chœur?
Alors, c'est difficile à dire, parce qu'on n'a pas justement de plan de la recherche du temps perdu, et on n'a pas des documents qui permettraient, comme on peut avoir le cahier des charges de la vie mode d'emploi de Georges Perec, que les plans de la route des Flandres de Claude Simon, on n'a pas les plans de la recherche du temps perdu. Proust a soigneusement gommé tout indice qui permettrait de découvrir un petit peu comment la recherche se structure et comment justement cette homologie s'est traduite dans les faits. Alors cette homologie est intéressante, pourquoi ? Parce que elle dit aussi la complexité de la structure de la recherche du temps perdu. La comparaison avec la cathédrale gothique est là pour justement signifier le fait que la recherche est construite comme un édifice qui, Proust le dit, a besoin de chaque partie pour former un tout, mais un édifice tellement complexe qu'il est impossible d'en trouver justement tous les éléments.
Alors, Proust architecte, Proust styliste aussi, puisqu'il y a le motif de la robe, qui est l'autre composition, finalement, de la recherche du temps perdu à partir d'une robe.
Oui, alors la phrase exacte, c'est celle-ci. « Je bâtirai mon livre, je n'ose dire ambitieusement, comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. » Les deux adverbes, c'est intéressant, ambitieusement et simplement. Alors, l'architecture n'est pas le seul métalangage auquel Proust a pensé pour évoquer précisément le travail d'écriture, de composition, d'organisation de son œuvre. Ce que je trouve intéressant dans cette analogie avec la robe, c'est qu'elle préfigure celle que l'on va retrouver ensuite au cours du XXe siècle, et notamment dans la critique, et la critique structuraliste chez Roland Barthes, la métaphore du tissu, du rapport entre précisément le texte et le tissu. Alors, c'est une autre comparaison qui, me semble-t-il, est tout à fait signifiante et qui donc inaugure toute une série de métaphores qui seront ensuite intégrées dans le vocabulaire de la critique structurale, bien entendu.
Est-ce que Proust s'intéressait par ailleurs à l'architecture ?
Oui, Proust s'intéressait à l'architecture, on le sait. Il s'intéressait à l'architecture parce qu'il a évidemment traduit le livre de Ruskin sur la Bible d'Amiens.
On peut peut-être dire un peu qui était Ruskin.
Alors, Ruskin a écrit un livre qui est un livre qui fait date, hein, sur la cathédrale d'Amiens, et Proust a soigneusement...
Ça s'appelle la Bible d'Amiens.
Voilà. Proust a soigneusement traduit, mais en plus il a annoté ce livre, manifestant évidemment ainsi son intérêt pour l'architecture et plus particulièrement pour l'architecture de la cathédrale.
Est-ce que, à un autre niveau, quand vous lisez la recherche, Pierre Hippolyte, vous avez le sentiment que l'espace est très décrit, que les pièces des maisons, des appartements, que la ville est décrite ou le village? Est-ce que il y a aussi un œil, j'ai envie de dire plus directement du romancier, à décrire les espaces architecturaux?
Oui, mais ce qui retient surtout mon attention, c'est la manière dont ces espaces sont habités. Et c'est précisément ce lien entre celui qui se trouve dans l'espace, l'espace de la chambre par exemple, hein, célèbre dans, évidemment, Guide de la recherche du temps perdu, mais aussi la manière dont la littérature permet de rendre compte de l'habitabilité d'un espace et à travers tous ces liens entre le présent, le passé, etc.
Mais c'est quoi l'habitabilité d'un espace ?
Eh bien, la manière dont on peut investir un espace, la manière dont on peut y trouver dans un espace sa place. Et on ne trouve pas toujours sa place dans un espace architectural, de même qu'on ne trouve pas toujours sa place dans un texte. Et là encore, l'homologie entre la littérature et l'architecture est intéressante, parce que si la littérature nous permet de comprendre comment on peut habiter un espace, elle peut aussi nous permettre de comprendre pourquoi on n'arrive pas à entrer dans un espace et on n'est pas bien dans un espace, comme on n'est pas bien dans un livre et comme on ne parvient pas à le lire jusqu'au bout.
Et vous avez un exemple de cela dans la recherche ou c'est trop difficile d'isoler un exemple ?
Alors c'est un peu difficile d'isoler un exemple parce que les espaces de la recherche sont à la fois des espaces architecturaux, ce sont à la fois des espaces sociaux et dans leur diversité, ce qui est important, c'est précisément la manière dont les relations entre les personnages sont aussi déterminées par leurs relations à l'espace.
Résonne en pénombre. Les pas qui mènent aux cendres. Entre les incrustations placées haut. De la lumière dans des silhouettes. Sur une miette d'espoir. Bronzé. De l'année entière. Le soleil.
La Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'architecture en littérature et en lien avec la littérature, avec Pierre Hippolyte. L'architecture, ça peut être aussi le dessin finalement que le texte prend sur la page. Et je crois que vous avez sélectionné un texte de Paul Valéry qui parle de cela, Pierre Hippolyte.
Oui, dans Les deux vertus d'un livre, paru en 1926, Paul Valéry évoque précisément les nouvelles formes de mise en page en précisant que la page est une image, un bloc de strates de noir et de blanc. Je cite le texte de Valéry plus exactement, mais à côté, à part de la lecture même, existe et subsiste l'aspect d'ensemble de toute chose écrite. Une page est une image. Elle donne une impression totale, présente un bloc ou un système de blocs et de strates, de noir et de blanc, une tache de figure et d'intensité plus ou moins heureuse. Cette deuxième manière de voir, non plus successive et linéaire comme la lecture, mais immédiate et simultanée, permet de rapprocher la typographie de l'architecture.
Est-ce qu'on est vraiment dans l'architecture là quand même ? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans le graphisme ?
Alors, Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Paul Valéry va très peu utiliser toutes les possibilités de la typographique que lui offre la typographie. Mais il met ainsi l'accent sur l'importance que prend désormais l'imprimeur, qui, dit Paul Valéry, doit choisir entre les possibles pour justement harmoniser, arranger les éléments d'un texte, du texte qu'il doit composer. Et Valéry souligne le fait que le résultat n'est jamais obtenu par automatisme ou par recette, mais par des efforts, des combinaisons et des petits miracles quotidiens. Et pour lui, c'est l'imprimeur qui est véritablement le véritable architecte de l'œuvre, du texte qu'il construit. Un texte qui n'est pas simplement fait, donc le dit Valéry, pour être lu, mais qui est fait pour être vu. Et donc le texte vu et le texte lu sont pour lui deux choses tout à fait différentes. Et je dirais même que Valéry insiste sur le fait que on ne voit pas les deux en même temps. On ne perçoit pas les deux en même temps. L'attention est donnée tantôt à l'une et tantôt à l'autre.
Mais ce mot d'architecture, on le comprend dans le cas de Valéry, mais l'acception habituelle de l'architecture comme un endroit qu'on peut habiter, est-ce que ça, on peut le transposer au graphisme du texte sur une page?
Alors on voit bien qu'il s'agit là non pas d'un espace à proprement parler à habiter, hein, mais d'un espace à lire, d'un espace à voir. Ce dont il est question, c'est de la perception que l'on a d'un espace graphique, en effet. Et le rapport avec l'architecture se fonde sur la construction de cet espace, la manière dont les éléments se trouvent intégrés dans cet espace et parviennent à composer un ensemble susceptible d'être vu et considéré comme un objet. Mmh. Le livre est pour Valéry un objet.
Et lui-même, donc, prêtait beaucoup d'attention à...
Pas particulièrement.
Non, pas particulièrement.
Pas particulièrement. Pas particulièrement. Alors, je crois que ça fait partie d'une réflexion très large de Valéry et d'une réflexion qui répond à une commande. En même temps, je crois que Valéry prend aussi acte de ce que les mouvements d'avant-garde ont pu innover dans le domaine de la typographie et des liens entre...
Les calligrammes, par exemple.
Voilà, les calligrammes d'Apollinaire, par exemple, mais aussi tout ce que les mouvements futuristes, dadaïstes, entre autres, ont pu innover sur un plan esthétique dans l'utilisation des codes typographiques et dans la production d'une poésie particulière, hein, qu'il s'agisse du poème statique chez Dada, ou d'une poésie visuelle.
Mmh. Alors avant cela, il y avait eu un autre texte de Valéry sur l'architecture qui s'appelle « Eupalinos » ou « L'architecte ».
Oui, c'est un texte de 1921. C'est dire l'importance de l'architecte comme figure symbolique du créateur pour Valéry. C'est un dialogue sur le modèle du dialogue socratique dans lequel Valéry évoque assez précisément le rapport entre l'architecture et la musique. Donc c'est aussi un texte intéressant parce que justement il travaille sur une autre analogie qui n'est pas sans lien effectivement avec l'architecture. Pensons aux notions de rythme par exemple, mm-hmm. en architecture comme en musique.
En littérature alors.
Mais on retrouve cette notion aussi en littérature et même en peinture. C'est aussi donc un dialogue qui dit la difficulté de penser l'architecture et si on ne veut pas limiter l'architecture justement au bâti, à la construction, ce qu'elle est par essence, mais ce qu'elle n'est pas seulement.
Alors un beau livre pour Valéry, c'est une machine à lire. L'expression fait penser évidemment à la machine à habiter de Le Corbusier. Le Corbusier que je vous propose d'entendre dans cet entretien avec Georges Charansol du 1er novembre 1962.
Moi, j'ai fait pour Thériade, dans les éditions Thériade, il m'a demandé de faire un bouquin pour lui, Léger en effet, Matisse, Picasso, etc. C'est un grand bouquin manuscrit entièrement, 180 pages de texte, de dessins, de lithographie, etc. Et j'ai fait ce chose, il ne voulait pas me laisser faire le texte disant que j'étais tout au plus un bon journaliste, il se trompait parce que je vaux mieux que ça, je sais écrire. J'ai pas appris, mais je sais le faire. En pratiquant, j'ai su le faire. Eh bien, j'ai dit, à la fin, il m'a dit, faites ce texte. J'ai fait le poème de l'angle droit, qui est un bouquin. Et quelques années après, ce brave Thériade m'a dit, mon vieux Courbu, vous savez pas. Eh bien, il a presque mon âge, je dis, il a dit, c'est la plus grande édition que j'ai faite de ma vie. C'est la plus grande chose que j'ai faite de ma vie. C'est ce bouquin. Donc, le poème de l'angle droit. Alors, vous voyez que je ne vais pas cracher dessus. Sur l'angle droit, puisque c'est fait il y a 10 ans à peine.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'architecture en littérature, d'architecture et de littérature. Avec vous, Pierre Hippolyte, vous avez sélectionné un texte de Le Corbusier qui, lui, était vraiment de la multidisciplinarité puisqu'il était architecte, mais aussi peintre, designer et qu'il a publié de nombreux livres. Pourquoi avoir relevé la figure de Le Corbusier dans la thématique d'aujourd'hui ?
Alors, elle est très importante, ne serait-ce que parce que l'extrait que l'on vient d'entendre permet de comprendre pourquoi Le Corbusier a produit autant de livres. Le Corbusier a produit, je crois, plus de 35 livres. Il a fait une véritable œuvre livresque, en dehors, évidemment, de l'œuvre architecturale pour
mais
laquelle
on ne considérait pas comme une œuvre architecturale à proprement parler.
Alors justement, ce qui est aussi intéressant dans l'extrait que vous venez de passer, c'est que Le Corbusier se dit écrivain. Si, parce que pour Le Corbusier, le mot architecture, je cite Le Corbusier textuellement, couvre l'art de bâtir des maisons, l'art typographique des journaux, des revues ou des livres. Et donc, par conséquent, l'art de faire des livres fait partie pour Le Corbusier de l'architecture. Et il a multiplié...
Et comment vous comprenez ça ?
Alors, tout simplement parce que le livre est lié à tout un travail de mise en page, de recherche iconographique, bien sûr, de mise en format, en même temps de conception d'une couverture, qui font appel, eh bien, à tout un savoir-faire qui, chez Le Corbusier, eh bien, renvoie l'auteur à son activité de peintre, à son activité d'architecte, de composition, de mise, de structuration du bâti, et bien évidemment à aussi l'écriture, son activité d'écrivain. Le Corbusier est aussi un écrivain, comme il a été aussi un peintre, comme il est aussi un architecte, et je ne suis pas sûr que l'on puisse dire qu'il soit plus l'un que l'autre. Le Corbusier est connu comme architecte, mais son œuvre picturale est aussi intéressante, et son œuvre livresque est très importante et significative. Elle l'est pourquoi ? Parce que justement, il y a tout un travail de mise en page, il y a tout un travail d'iconographique, plastique aussi, lié à la conception des couvertures de ces ouvrages.
Donc c'est l'objet livre là qui l'intéresse.
C'est l'objet livre qui l'intéresse, mais le livre non pas simplement en tant qu'objet que l'on prend, que l'on ouvre, etc. C'est aussi la composition interne du livre qui l'intéresse. Et c'est aussi l'interaction, bien sûr, dans ces livres entre les textes et les images, et qui est très surprenante.
Et la matière du livre l'intéresse aussi.
Bien sûr.
La taille, le format.
Oui, tout à fait.
La manière dont le livre se pose sur une table. Enfin, est-ce que vous pensez qu'il va jusque-là, jusqu'à l'inscription du livre dans l'espace, comme un bâtiment s'inscrit dans un espace ?
Alors, je pense en effet que Le Corbusier est très attentif à l'objet livre lui-même et à la manière, à l'usage qu'on peut en faire. Ce qui caractérise donc ces ouvrages, et tous ces ouvrages, c'est bien en effet ce rapport particulier qui s'instaure dans ces textes entre l'écrit, les images photographiques, les croquis d'architecture, les reproductions, et bien évidemment, ce rapport est un rapport qui est signifiant et qui est tout à fait nouveau dans la production livresque. On pense à Vers une architecture, publiée en 1923. Dans Vers une architecture, vous avez des images du Parthénon juxtaposées à des images d'automobiles. Et puis vous avez du texte qui vient à la fois commenter, mais aussi qui se développe, lui développe son propos en dehors même des images et qui se trouve au-dessus ou en dessous de l'extrait. Et donc vous avez véritablement un travail de conception et de composition et un travail de réflexion sur les rapports entre le texte et l'image qui est très intéressant.
Et ça, ce sera toute sa vie, parce que le premier de ses livres paraît en 1912 et le dernier, c'est l'Atelier de la recherche patiente. Il paraît, lui, en 1960.
Oui. Et ce sera en effet toute sa vie. Donc, au moins 35 livres de Le Corbusier que l'on peut répertorier. Ça veut dire à quel point l'œuvre écrite double l'œuvre architecturale.
Est-ce que on sait ce que Le Corbusier pouvait penser, par exemple, de Victor Hugo, dont vous nous avez lu ce fameux chapitre, un extrait de ce fameux chapitre, « Se situera cela ».
Oui, alors, je ne connais pas suffisamment l'œuvre de Le Corbusier pour répondre avec précision, mais je vous répondrai justement, si vous voulez, par un détour. Le Corbusier publie en 1937... un texte et un livre intitulé « Quand les cathédrales étaient blanches ». Et donc, il nous renvoie à ce motif de la cathédrale. Le titre, évidemment, est choisi parce que, en référence à la construction des buildings, des grandes tours de Manhattan, et donc il établit ainsi une comparaison entre l'édification des cathédrales au Moyen-Âge et l'édification des gratte-ciels à New York dans les années 20, dans les années 30. Gratte-ciel qu'on appellera aussi des cathédrales, cathédrale du journalisme, cathédrale du commerce, etc., dont la forme rappelle la cathédrale gothique.
Ils sont construits un peu plus rapidement quand même, mais enfin...
Oui. Alors, je ne sais pas si Le Corbusier cite textuellement Victor Hugo dans tous ses textes, je ne le crois pas d'ailleurs, mais la référence est néanmoins intéressante parce qu'il y a bien là une continuation et une sorte de mise en perspective de ce motif architectural. Le Corbusier, évidemment, n'ignorait pas Victor Hugo.
Alors, un autre écrivain auquel on pense quand il s'agit d'espace, d'immeubles, de rues imaginaires ou réelles, c'est bien sûr l'auteur d'Espèces d'espace, Georges Perec.
Quand on pense à l'Espagne, à l'espace, et l'Espagne aussi, du reste, il apparaîtrait que la campagne est au contraire le plus grand réservoir d'espace. Or, pour vous, il semble que non, l'espace, vous le découvrez plutôt dans la ville.
Mais c'est-à-dire que je voudrais bien que ça soit la campagne. Je voudrais bien me sentir chez moi avec la terre, avec les bois, avec les nuages, avec... j'appellerais ça l'utopie villageoise. Ouais. Je veux dire, je serais heureux si j'étais comme un poisson dans l'eau quand je suis à la campagne. Mais la campagne... personnellement, je suis un citadin, j'ai presque toujours vécu dans des villes, et c'est dans la ville, c'est dans le béton et l'asphalte que je suis le plus à l'aise. C'est là que je mesure l'espace. Quand je suis à la campagne, je veux dire, il y a des choses que je vois, que je voudrais sentir, mais je sais pas, il y a une très belle nouvelle de Hermann Hesse qui s'appelle Le Faiseur de pluie, où il y a un homme qui vit dans la forêt et qui sait la forêt, comme on dit, de quelqu'un qui sait les mathématiques, par exemple, ou la physiologie. Eh bien, moi, je ne sais pas la forêt, je ne sais pas.
Et ce que vous apprenez dans ce livre, ce que vous apprenez à vous-même et que vous apprenez peut-être au lecteur, c'est à découvrir la ville comme espace, comme emboîtement infini,
oui,
d'espace.
C'est essayer de décrire une rue d'une manière, enfin, vraiment très plate, très neutre, très simple. Et puis, essayer d'aller jusqu'au bout de cette description en regardant ce qui se passe, disons, ce qui se passe, c'est-à-dire comment l'espace se met à fonctionner, comment il se met à vous arrêter, au contraire, comment il vous donne une impression de liberté ou de possibilité, et puis comment on peut jouer avec.
Lapouge, c'était en octobre 1974. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette archive de Perec, Pierre-Hippolyte ?
Alors, elle est très touchante à écouter. Elle m'inspire deux remarques. Ce dont parle Perec, c'est de la manière aussi dont on habite l'espace. Et il insiste sur la question du jeu avec l'espace. Il dit « jouer avec l'espace ». Et la manière d'habiter l'espace chez Perec, c'est tout simplement d'écrire. Dans Espèces d'espace, publié en 1974, Perec dit ceci: j'écris que j'écris. Et il ajoute: j'écris, j'habite ma feuille de papier, je l'investis, je la parcours.
Mais c'est pas un peu une formule?
Alors, je ne crois pas que ce soit une formule, parce que justement, il définit un autre. Plus précisément, me semble-t-il, notre congruence entre l'architecture et la littérature. Mm-hmm. Et dans Espèces d'espace, ce texte s'accompagne précisément d'un dessin qui met en valeur, sous la forme d'une échelle, en quelque sorte, la manière dont l'écrit peut travailler l'espace même de la page. Alors c'est évidemment aussi tout à fait intéressant de voir que la notion d'habiter l'espace, eh bien, elle a deux bouts, si vous voulez. Elle concerne aussi bien l'écrivain qui écrit et qui se demande ce qu'il va écrire et comment il va l'écrire. Et puis, elle concerne aussi, évidemment, le lecteur. Et elle nous renvoie bien à l'idée d'un savoir-faire, en tout cas partagé, d'une expérience partagée entre l'architecte et l'écrivain, au-delà même de la métaphorisation propre à la caractérisation générale des rapports entre la littérature et l'architecture. Les deux sont des créateurs d'espace et des créateurs de fiction.
Donc il y a espèce d'espace, mais il y a aussi la vie mode d'emploi, qui est le roman de l'immeuble par excellence.
Oui, publié en 1978, la vie mode d'emploi retrace la vie d'un immeuble parisien situé au numéro 11 de la rue Simon-Crubelier dans le 17e arrondissement de Paris.
Voilà, donc rue qui n'existe pas.
Rue qui n'existe pas, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est bien évidemment quel est le dispositif que Pérec a mis en œuvre pour essayer de rendre compte de la vie de cet immeuble parisien. Pérec s'inspire, il le précise, dans un texte publié dans la revue L'Arc, de modèles graphiques pour la représentation donc de cet immeuble parisien, une carte postale présentant une maison de poupée victorienne et un dessin de Saul Steinberg qui présente donc un immeuble en coupe. Et ce dessin, qui est un plan donc en coupe, laisse voir l'intérieur de l'immeuble, une vingtaine de pièces avec leurs occupants et bien évidemment les éléments de l'espace, le mobilier entre autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce geste de la découpe est un geste qui donc permet de voir sans être vu, permet de décrire à loisir et permet aussi bien évidemment d'imaginer la vie des habitants dans cet immeuble. Ceci dit, pour ce faire, pour décrire la vie des habitants dans cet immeuble, Pérec va avoir recours à des contraintes formelles pour construire son roman, et je n'en évoquerai deux, simplement, le carré 10 par 10, qui va lui permettre de matérialiser le plan en coupe de l'immeuble, chaque case correspondant à une pièce, et la polygraphie du cavalier, qui va lui permettre de déterminer le parcours du narrateur dans l'immeuble, afin d'éviter de décrire l'immeuble étage par étage, et ceci lui permettra également de ne pas repasser deux fois par le même endroit. Et donc c'est ces modèles qui vont régler l'ordre, la composition des chapitres du roman. D'un roman qui fera 99 chapitres et non pas 100, parce qu'il y a toujours pour les membres de l'Oulipo une figure de clinamen qui fait qu'il y a toujours un dérèglement dans la conception même d'un texte. Et ce qui fait que donc on n'aura pas 100 chapitres, mais simplement 99. Bien sûr, il y a d'autres contraintes structurelles, bien sûr, il y a d'autres contraintes conjoncturelles, mais ceci permet à Pérec, et on sera sensible à l'expression, de produire ce qu'il appelle une machine, hein, une machine à produire du roman. Et d'ailleurs, son roman ne sera pas intitulé « roman au singulier », en référence au genre existant, mais « roman au pluriel ».
Parce que finalement, c'est l'histoire d'un immeuble, c'est l'histoire de cette machine à créer de la vie, donc à créer du roman, à créer des histoires.
Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, ce dispositif va permettre à Pérec de laisser au lecteur la possibilité d'habiter cet espace librement. Avec ses annexes, le lecteur va avoir la liste des histoires racontées, la liste des personnages, etc. Et va donc pouvoir, eh bien, choisir de commencer la lecture du livre où bon lui semble. Et va donc pouvoir suivre le parcours qui l'intéresse dans ce livre, par exemple l'histoire d'une famille ou l'histoire d'un personnage, ou au contraire, tout simplement s'attacher à un espace en particulier.
Il y a de la poésie dans l'idée que c'est le lieu qui va engendrer les histoires, pour vous, Pierre-Hippolyte, de manière comme ça un peu subjective?
Oui, il y a de la poésie, mais plutôt ce qui me semble plus intéressant, c'est justement cette conception un peu machinique, hein, d'une machine à raconter qui me semble poétique, hein, mais qui est poétique dans la mesure où précisément elle laisse aussi la possibilité au lecteur de s'installer dans le texte.
Alors, Barthes vient ensuite dans la liste des textes que vous avez sélectionnés. C'est un extrait de Sémiologie et urbanisme, un texte de 1967, si vous voulez nous le lire.
La cité est un discours, et ce discours est véritablement un langage. La ville parle à ses habitants, nous parlons notre ville, la ville où nous nous trouvons, simplement en l'habitant, en la parcourant, en la regardant. Et Barthes ajoute un peu plus loin, nous devrons être nombreux à essayer de déchiffrer la ville, où nous nous trouvons, en partant, si nécessaire, d'un rapport personnel.
Donc là, il s'agit de lire la ville directement, la ville comme un texte
tout
qui
à
nous
fait.
Parle.
Tout à fait.
Alors, on retrouve peut-être un peu l'idée de Victor Hugo avec la cathédrale et les bâtiments qui parlent aux personnes qui passent devant.
Alors, le lien entre Barthes et Victor Hugo est explicite. Barthes cite très souvent Victor Hugo comme étant celui qui précisément fonde à ses yeux cette analogie, cette homologie structurante entre la ville et le texte.
Et au milieu d'une ville qui est Paris, il y a la Tour Eiffel. Je vous propose d'écouter Roland Barthes en parler.
La Tour Eiffel est un objet véritablement omniprésent, qui a une présence totale et permanente pour tout Parisien. On la voit de partout. Je dirais qu'il n'y a pas une seule journée de sa vie où le Parisien n'ait l'occasion de voir la Tour Eiffel. Et je trouve qu'elle a une sorte de rôle amical dans la mesure où nous pouvons penser que précisément quand de notre fenêtre, par exemple, nous regardons la Tour Eiffel, eh bien nous savons aussi que des gens que nous aimons, des amis, peuvent aussi, eux, la voir.
C'est donc posé sous ses pieds cette belle fusée qui s'ennuie. J'attends que la Tour Eiffel.
Compagnie des auteurs, cette idée de la ville comme discours, de la ville qu'on peut lire, Pierre-Hippolyte.
Oui, alors l'extrait qu'on vient d'entendre est un extrait donc, de l'écrit de Barthes sur la Tour Eiffel qui est publié en 1964 et qui donc caractérise un monument d'architecture dans son contexte urbain, dans son contexte historique et dans son contexte culturel. Barthes, ici, va analyser précisément la Tour Eiffel à travers ses symboles, hein, ce qu'elle symbolise. Donc en tenant compte de son ancrage. Et c'est un texte donc qui va évoquer la Tour Eiffel comme un signifiant pur, comme un objet qui voit et qui est vu et qui est ouvert et livré
à
l'interprétation.
Qu'est-ce qu'elle signifie alors la Tour Eiffel ?
Alors justement, elle signifie un peu tout ce qu'on veut. Et Barthes va partir de la protestation des intellectuels et des écrivains contre la Tour Eiffel, que Maupassant avait signé par ailleurs, pour montrer qu'ensuite, eh bien, la Tour Eiffel incarne différentes choses, symbolise à chaque époque quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il la définit comme un signifiant pur. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement le fait que Barthes emprunte à la linguistique des outils de l'analyse du discours. Et ceci est permis justement parce qu'il y a pour lui une analogie claire entre les composants signifiants en architecture, en urbanisme et le texte. Alors bien évidemment, quand il emploie le mot « signe » et quand il emprunte au vocabulaire de Saussure le terme de « signifiant » et de « signifié », etc., il ne renvoie pas uniquement au signe linguistique. C'est ce travail de déplacement des outils de la linguistique dans le champ de l'analyse sémiologique et dans l'étude de la ville qui fait date et qui est tout à fait intéressant. Ce qui va aussi marquer les analyses de Barthes, c'est la prise de conscience justement de l'inflation des signifiants dans le texte urbain.
Et là, on peut peut-être penser à Las Vegas, parce que s'il y a bien une ville dans le monde qui n'est que texte, avec ses publicités partout dans la ville, avec ses immeubles qui sont même en forme de publicité. Je me souviens de cette petite cabane en forme de canard dans laquelle on vend, je crois, du canard. Las Vegas, c'est vraiment la ville qui parle, c'est la ville texte par excellence.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Las Vegas sera sera pris comme exemple par les théoriciens de la postmodernité qui remettront en partie en cause, évidemment, les analyses de Roland Barthes, parce que leur définition du texte ne sera pas la même. Barthes, lui, va prendre un autre exemple. Il prend l'exemple de Tokyo. Tokyo, qui sera l'exemple de l'Empire des signes, qui précisément lui permettra de prendre en compte une des dimensions caractéristiques des villes du asiatique, c'est leur absence de centralité.
Merci beaucoup, Pierre-Hippolyte, de nous avoir fait découvrir les liens entre ces deux domaines de la création que sont l'architecture et la littérature. Vous avez dirigé plusieurs ouvrages collectifs qui abordent justement ces liens sous un angle scientifique. Citons par exemple Architecture et littérature contemporaine aux presses universitaires de Limoges en 2012. Toutes les références des textes que vous nous avez proposés sont à retrouver évidemment sur le site internet de l'émission. Demain, notre carte blanche sera proposée à Philippe Roger. Il nous parlera des États-Unis tels que les ont vus et décrits durant plus de 3 siècles, les écrivains français. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, nous retrouvons Jean-Pierre Siméon. Pourquoi il était parti ? Non, laissez-moi finir, Jacques. Nous retrouvons Siméon, ex-directeur du Printemps des Poètes, qui a passé la main à Sophie Nolot, que nous saluons. Mais vous avez raison, Jacques, nous ne l'avions pas tout à fait perdu. Ardent militant des combats poétiques, homme de terrain, homme des rencontres autour de l'arbre avec les éditions Chênes au Chambon-sur-Lignon, imprécateur à la barbe fleurie, il est d'un printemps perpétuel et non trafiqué. La poésie sauvera le monde. Ça, c'est bien vrai. Non, taisez-vous. C'est le titre de son dernier livre. Mais c'est pas son dernier. Non, mais pas son dernier, mais c'est pareil avec tous les poètes. Alors, laissez-moi terminer, Jacques. La poésie sauvera le monde. Ça, c'était hier. Ça circule, c'est traduit, ça prend de l'ampleur. Et maintenant, voilà qu'il nous envoie, en retard d'une campagne ou en avance d'une autre, Politique de la beauté. C'est publié chez Chênes. Chaque matin, simplement, reparlons-nous du bonheur. Comme chaque matin, on remet ses chaussures, pour n'avoir pas dormi en vain, pour donner un paysage à nos blessures, pour faire signe à la flambée du jour, mais surtout en parler en silence, n'y pas toucher davantage qu'à l'aile du papillon. Que sera le bonheur donc ? Non pas la récompense promise, non pas l'oiseau dans les cheveux, peut-être le premier sourire du plus perdu d'entre les hommes, après qu'il est sorti du charnier le corps et l'âme en sang, quand le jour silencieux le prend entre ses bras, reparlons-nous du bonheur. Je crois en une politique de la beauté. Elle serait, devant les êtres et les choses, non pas seulement le mot juste, mais son frisson de feuillage sous l'averse. Une loyauté du cœur, une délicatesse devant la mort, comme la précaution du chat devant la coupelle de lait. La beauté qu'il nous faut n'est pas une forme, une vie arrêtée dans son bond, ce geste froid qui nous éloigne de la crête et de l'abîme. Elle commence avec le silence, une pensée qui s'ouvre en nous, comme une fleur en sa naissance. La beauté audacieuse n'a qu'une loi, elle exige de l'homme la probité des fleurs. Voici le temps des métamorphoses, sans prétexte. Il fait toujours plus beau avec l'avenir qui a la bouche du vieil homme et le sourire de l'enfant. Nous habitions hier l'heure du départ, nous l'habiterons demain, caravanier aux yeux brûlés qui cherche l'eau, ou du moins sa rumeur. Sa jeunesse la plus neuve dans le toujours des sables et des raisons mortes. Mourant, nous inventons le chant pour croire à la fontaine, et nous nous donnons du courage à regarder l'envol des oiseaux au-dessus des ruines. Dans la préface, il s'agit que la poésie relève la tête et qu'elle reprenne à cœur la tâche de saisir dans cette pensée émue qui est la sienne, en dépit ou plutôt en raison même des sentences inexorables du malheur, les arguments de la beauté qui est tout sauf la flatterie formelle à quoi on la réduit généralement par commodité. Il a beaucoup gagné, celui qui parvient à comprendre la vie sans avoir l'âme en deuil, disait Hölderlin.
Jacques Bonafé, merci.